Messieurs, dames, il est 18h, vous êtes toujours à l'écoute du Studio Kalangou, votre journal en français. Voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, vient de publier les derniers chiffres sur la scolarisation des enfants. Le Niger figure parmi les 10 pays affichant les taux de scolarisation les plus faibles avec 38%, détail dans un instant. Une campagne de vaccination dite de riposte contre la polio se tiendra du 3 septembre au 8 septembre au 6 septembre 2016. La première étape concernera les régions de Diffa et de Zender. Cette campagne de riposte fait suite à la découverte de cas de virus sauvage au Nigeria voisin. Les explications d'Ali Issa Ali, coordinateur immunisation de la Direction régionale de la santé publique de Diffa. Le programme Paix à travers le développement PDF2 organise depuis ce matin à Maradi un atelier national de formation sur les réseaux sociaux autour du thème « Renforcer la messagerie Internet via les réseaux sociaux dans la lutte contre l'extrémisme violent ». On en parle dans ce journal. Enfin, dans la partie magazine de ce journal, nous parlerons de l'alimentation des carnivores du musée national Boubou Hamma. Bonsoir, bienvenue. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, vient de publier des éléments statistiques sur la scolarisation des enfants dans certains pays. Plus d'un enfant sur trois ne va pas à l'école, ce qui n'est pas sans conséquence sur le développement et même la stabilité des pays concernés. On fait le point avec Nafissa Adamou.
Le Niger figure parmi les 10 pays affichant les taux de scolarisation les plus faibles avec 38%, le Nigeria le suit de près avec 34%. Mais c'est le Libéria qui enregistre le plus fort taux d'enfants non scolarisés. Près de 2/3 des enfants en âge de suivre une éducation primaire n'ont pas accès à l'école. Puis vient le Soudan du Sud, où une école sur trois est fermée en raison du conflit. Au total, dans les 10 pays affichant les pourcentages d'enfants n'ayant pas accès à l'éducation primaire, près de 2 enfants sur 5, soit 18 millions, ne sont pas scolarisés, déclare l'UNICEF. Tous ces chiffres démontrent que les urgences humanitaires et les crises prolongées empêchent les enfants d'aller à l'école. Selon toujours l'UNICEF, l'absence d'éducation signifie qu'une génération entière d'enfants grandira sans pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour contribuer au développement de leur pays. La situation déjà désespérée de millions d'enfants et de leurs familles en sera aggravée. Lorsque les enfants ne sont pas scolarisés, les risques d'abus, d'exploitation et de recrutement dans des groupes armés sont plus élevés, explique Joe Bourne, responsable de l'éducation à l'UNICEF. Nafissa Adamou, Studio Kalangou.
À suite de la 5e édition de la semaine culturelle et sportive des scolaires nigériens lancée hier, nous en parlions dans cette édition. Une conférence a été organisée ce matin à la Blue Zone de Niamey sur le thème « Le terrorisme ». Le conférencier Moussa Tchangari a abordé le problème sous différents angles en prenant l'exemple de Diffa et d'autres régions. Moussa Tchangari au micro de Asmana China.
Sur le plan économique, on voit un peu aujourd'hui comment l'économie, par exemple, du pays tout entier est en train de prendre un coup. N'en parlons pas des régions qui sont les plus touchées par le terrorisme. Nous avons, sur le plan social, des milliers aujourd'hui de personnes qui sont déplacées, etc., qui sont réfugiées, qui sont devenues des assistées. C'est un problème sérieux, n'est-ce pas? Les enjeux politiques sont aussi énormes parce que les attaques terroristes sont venues mettre à nu nos faiblesses dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, mais aussi dans le domaine même de la gouvernance, dans le domaine de la justice, tout ça, on voit, ça a permis de voir les limites de nos États. Et il y a aussi les enjeux géostratégiques, qui sont relatifs notamment à la question des convoitises qu'il y a autour de nos richesses naturelles, etc.
Propos recueillis par Asmana China. Le programme Paix à travers le développement PDF2 organise depuis ce matin à Maradi un atelier national de formation sur les réseaux sociaux. Le thème de cette rencontre est « Renforcer la messagerie Internet via les réseaux sociaux dans la lutte contre l'extrémisme violent ». Il est organisé à l'intention des leaders religieux musulmans et chrétiens venus de Tawa, Diffa, Agadez, Tillabéri et Maradi et vise à amener ses participants à contrer l'extrémisme violent au Niger à travers l'utilisation l'utilisation de ces réseaux sociaux. Explication avec Massaoudou Ibrahim, chargé de programme principal à PDF2, au micro de notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman.
Vous n'êtes pas sans savoir que les groupes extrémistes utilisent l'Internet à travers les médias sociaux pour diffuser certaines informations non fondées. Ils sèment alors la désinformation et la psychose au sein des populations. Ils sèment des promesses faramineuses au rang des jeunes naïfs qu'ils arrivent à recruter à leur miroitant, n'est-ce pas, des promesses ostentatoires. Et ils endoctrinent ces jeunes-là jusqu'à ce que ces jeunes soient capables d'égorger leurs propres parents. Nous devons alors utiliser tous les canaux de communication, renforcer les capacités des acteurs, notamment les leaders religieux, afin qu'ils puissent contrer la propagande des groupes extrémistes.
Une nouvelle réaction relativement à la création d'une coalition de l'opposition dénommée Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR. Il s'agit de la réaction du président du MODEM, Maïkata, parti non affilié de Tahiru Gimba, l'un des candidats de l'élection présidentielle dernière du Niger. Selon lui, la création de ce nouveau front de l'opposition est un non-événement. Tahiru Gimba au micro de Mokhtar Amadou.
Du fond de cœur, je pense que c'est un non-événement. Parce que, écoutez, depuis 25 ans, on a créé des FRDD, des RDRD. On a tout créé, on a tout essayé. Mais les vrais problèmes qui minent le Niger, tout le monde les occulte, sciemment. Parce que remettre le Niger sur les rails suppose d'abord arrêter cette constitution qu'on s'est donnée qui n'est pas adaptée à nos réalités socioculturelles. Le semi-présidentiel, c'est un truc de chantage, de marchandage à longueur de journée. On ne travaille pas, on ne fait plus que marchander les postes, marchander les marchés. Mais voulez-vous qu'on développe un pays comment? Donc, que ce soit FR quoi, qu'on met 10 RR dedans, ou 11 RR dedans, MRN quoi, tout ça là, c'est du théâtre. Je pense que vraiment, l'opposition a raté. C'est les mêmes visages. Demain matin, on est bleu, après on est rouge, après on est jaune, après on est vert. C'est toujours la même chose depuis 25 ans. Et ça, les Nigériens en ont assez. Écoutez, les vrais problèmes du Niger sont ailleurs. Nous pensons aujourd'hui, nous, que ceux qui gouvernent le font mal, ceux qui s'opposent le font mal. On va les voir à l'œuvre. Mais une opposition doit au moins être constructive.
Vous venez d'entendre Tahiru Gimba, président du modèle Maïkata. Une campagne de vaccination dite de riposte contre la polio se tiendra à partir de demain, 3 septembre, jusqu'au 6 septembre 2016. La première étape concernera les régions de Diffa et de Zender. Cette campagne de riposte fait suite à la découverte de cas de virus sauvage au Nigeria voisin. Ali Issa Ali, coordinateur immunisation de la Direction régionale de la santé publique de Diffa, nous en dit plus. Il est au micro de notre correspondant à Diffa, Adam Baboukarna.
La réception des vaccins, on a réceptionné 270 000 vaccins, de doses de vaccins bivalents pour une cible estimée à 255 600 enfants de moins de 5 ans qui doivent être vaccinés. Donc par rapport à cet aspect aussi, l'on doit se dire que l'importance de renforcer cette fois-ci la vaccination, en fait l'immunité de nos enfants, pour la seule et bonne raison que ces passages locaux font suite au fait que au Nigeria, précisément dans l'état de Borno, ils ont enregistré deux cas de poliovirus, je précise bien, deux cas de poliovirus sauvage. Et on ne sait pas, ces enfants-là, avant qu'ils ne manifestent ou avant qu'ils ne soient découverts, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont séjourné. Certainement qu'ils ont dû séjourner au Niger et qu'ils ont hébergé leurs germes par-ci, par-là. Et des enfants ou de nos enfants qui n'ont pas une forte immunité solide, et ils peuvent quand même être encore victime de ce germe. Et c'est pour cela que c'est entre les pays du lac Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Niger aussi, et qui sont en train de faire cette vaccination. Pour le Niger, c'est seulement la région de Zander et de Diffa pour ce passage.
Propos recueillis par Adam Baboukarna. Plusieurs bouchers de Niamey ont été interpellés par la police hier suite à l'opération de démantèlement des réseaux d'abattage clandestins entrepris par la direction régionale de l'élevage de Niamey. Selon le directeur régional de l'élevage, Dr Sani Gambo, la consommation de la viande de l'abattage clandestin peut nuire gravement à la santé de la population. C'est pourquoi il demande aux citoyens de dénoncer les cas suspects et s'explique au micro de Moussa Hassan.
L'élevage a la responsabilité de faire l'inspection des viandes au niveau des abattoirs de Gamkale, de Tondibia et l'abattoir privé qui est créé tout récemment à Kobia. Le but de l'inspection, c'est de mettre à la disposition de la population de la viande saine et salubre. Là, on est sûr que les gens peuvent la consommer sans problème. Mais quand les bouchers se mettent à abattre à la maison dans des conditions hygiéniques inimaginables, ce qu'on a vu hier sur le terrain, il y a des risques énormes. Les gens peuvent contracter beaucoup de maladies, la tuberculose par exemple, et beaucoup de maladies parasitaires que l'homme peut contracter en mangeant de la viande qui n'est pas du tout inspectée. Nous attirons l'attention de la population. Quand elle constate qu'il y a des bouchers qui sont en train de faire ce genre de travail, de les dénoncer. Comme ça, nous, on va intervenir pour que cela au moins cesse et mettre à l'abri la santé de la population de la région de Namé pour ne pas avoir des problèmes sanitaires. Comme vous voyez, la viande qui sort du laboratoire, il y a une estampille. Donc, c'est clair et net. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter et consommer.
Docteur Sani Gambo, directeur régional de l'élevage. Le centre de la promotion musicale CFPM Taya abrite depuis hier matin un atelier de formation des jeunes sur le son et surtout les instruments traditionnels. Une formation qui durera 2 semaines. Maman Sani Mati, artiste musicien et organisateur de cet atelier, il est au micro d'Omar Hama.
Cet atelier d'aujourd'hui est un projet que j'ai élaboré. Ça fait un bout de temps pour pouvoir faire, donc, partager mes modestes connaissances avec les jeunes. Promotion théorique et pratique sur le son, parce qu'on ne peut pas fabriquer un instrument de musique sans savoir connaître le son et connaître particulièrement le timbre spécifique de l'instrument qu'on veut fabriquer. Et donc, c'est une formation qui va s'étaler sur ces 3 modules de formation. Donc, la première, c'est théorie et pratique du son et le timbre, donc, spécifique du grumi, mais aussi le maniement de cet instrument, parce que pour pouvoir jouer, fabriquer le bon instrument, il faudrait déjà savoir jouer, comment jouer la note qui va faire ressortir le timbre réel de cet instrument. Et donc, il y a cette formation, donc, et une autre, la deuxième, consistera donc à la fabrication, même en tant que tel de l'instrument, est un instrument sur lequel on a apporté une certaine innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est qu'on le rend électro-acoustique, mais bien sûr, il garde toujours son timbre original.
Propos recueillis par Omar Hamma. Début cet après-midi de la phase finale du championnat national cadet U17. Chaque région était représentée par une équipe composée de jeunes de moins de 17 ans sélectionnés au niveau des équipes de la dite région. Les 8 équipes régionales étaient divisées en 2 poules. Au terme des rencontres de poules, les 4 meilleurs ont été retenus pour cette phase finale. Il s'agit des équipes de Maradi, Tilabéri, Tawa et Zender. Un match d'ouverture, Zender contre Tawa ce soir au stade municipal de Niamey et demain, Maradi affrontera Tilabéri. C'est l'heure de la partie magazine de cette édition. La partie magazine traite aujourd'hui de l'alimentation des carnivores du musée national Boubou Hama de Niamey, un zoo qui compte plus de 130 différentes espèces. Selon le directeur adjoint du musée, Maki Garba, les animaux sont nourris sur fonds propres du musée et avec l'appui de certains partenaires tels que l'abattoir, les hôtels de la place. Maki Garba, directeur adjoint du musée, au micro de Adama Dawaki.
Le musée achète au niveau de son propre fonds des animaux pour les lions, les hyènes et les crocodiles, qui sont quand même des carnivores. Au moins 2 ans, sans compter ce qu'on va prendre aussi à l'abattoir national par jour. C'est vraiment un partenariat où l'abattoir nous vient en aide. Nous ne versons pas de l'argent à l'abattoir. C'est tout ce qui n'est pas consommable au niveau des humains. Au lieu de rejeter ça à la nature, nous sommes informés et nous envoyons nos techniciens pour récupérer. Et c'est pas seulement à l'abattoir. Il y a plusieurs moments où la gendarmerie ou bien l'hippodrome, s'ils ont des chevaux blessés ou ont quand même des difficultés pour l'utilisation, ils font appel au musée national et nous offrent gracieusement. Il y a aussi des citoyens qui, souvent, ils remarquent que leur mouton ou leur chèvre ou leur cheval a un problème et vraiment, ils viennent gracieusement, en bon citoyen, offrir ça au musée. Donc, je vous ai parlé aussi des hôtels de la place, comme l'hôtel Gawé, qui, souvent, ils nous envoient quand ils détectent de leur système quand même de quelque chose qui peut servir au musée. Ils nous font appel à nous et nous, on boit notre voiture pour voir ce qui peut être utilisé. Les difficultés, c'est la mobilisation des moyens pour subvenir aux besoins de ces maison et aussi les demandes que nous lançons souvent pour avec le ministère de l'Environnement pour pouvoir faire de la capture et diversifier l'offre pour les citoyens nigériens. Ce n'est pas toujours facile de faire la demande et d'avoir l'autorisation de capture. Et souvent, les gens, ils ont besoin de voir d'autres types d'animaux et le musée se bat. Nous n'avons pas toujours les moyens d'acheter, mais si...
Un exemple de ce type d'animaux qu'ils ont ici.
Avant, ils parlent d'éléphants, ils parlent de girafes, mais aujourd'hui, l'espace est réduit pour amener ces animaux. Pour cela, le musée a fait quand même un prototype de l'autre côté. Pour la girafe, ça demande beaucoup d'espace. L'éléphant, ça demande de l'espace et ça va demander aussi assez de moyens pour l'entretien.
Ici s'achève cette édition, le Forum de la presse. C'est tout de suite avec Amado Moumouni.